avant de lire l'évangile, à la messe, le prêtre, dans l'église catholique, dans le rite latin, il se prosterne, il se plie devant l'autel, font un grand signe de croix sur eux, et puis ils disent « Seigneur, purifie-moi. Munda cormeum. Munda cormeum aclabiam mea et mes lèvres. Viens le purifier. Pour que ce soit de manière divine, digne, de manière divine, et affiné, et compétenteur. Annonciem Evangelium Tuum, que l'évangile qui le tient, je puisse l'annoncer à mes frères, fratribus meis et soribus, et à mes sœurs. Et à tous, à la multitude de tous, et omnibus sur toute l'orbe de la terre. Munda cormeum ac labia mea ut digne et competente annuncia evangelium tuum, la bonne nouvelle. Fratribus meis et soribus, et omnibus orbis terrae. Il y a quelque chose qu'on proclame dans le sacrifice de la messe, l'évangile de Jésus, des évangiles de Dieu. Il y a quelque chose qui fait que ça s'adresse d'abord à ceux qui sont là, bien sûr, mais à travers eux, cette parole, cet évangile proclamé, prononcé à l'intérieur d'une église, d'une chapelle, d'un oratoire, d'une cathédrale, surabonde, se fait entendre, et puis vient faire entendre ce qu'il dit, ce qu'il proclame sur toute la surface de la terre, et à tous. Et pour ça, il faut qu'il y ait une divinisation des lèvres du prêtre. Il faut qu'il y ait une purification du cœur. Il faut qu'il y ait comme... Il faut que la parole qui sort des lèvres soit une parole, une sortie des lèvres du baiser admirable du cantique des cantiques. Les lèvres d'amour. Éternel, divin et incréé du Père et du Saint-Esprit, les deux lèvres qui passent par la bouche du Christ dans le baiser d'amour. Parce que la proclamation des lèvres et la foi du cœur sont les deux colonnes de la vie du Christ dans son corps mystique vivant jusqu'à ce qu'il vienne. La proclamation des lèvres donne le salut au monde. La voix du cœur obtient la justice. Romains chapitre 10, verset 10. Ouvrez-moi les portes de justice. Ouvrez-moi les portes de justice. C'était dans le psaume de l'Aude, psaume 117. Ouvrez-moi les portes de justice. La voix du cœur obtient la divinisation, obtient la justice, obtient la présence paternelle vivante de Dieu incarné pour envelopper et prendre possession de l'humanité tout entière. La parole, lorsque se fait entendre, C'est la confession des lèvres. Vient les sauver. Et Jésus, dans les épîtres là qu'on vient de lire, l'épître aux Hébreux est venu une première fois. Jésus est venu une première fois. Il a offert son sacrifice. Il est venu une première fois. Il est venu une seule fois. Il est venu une seule fois. Une fois pour toutes. Il n'a pas besoin de recommencer continuellement, jour après jour, semaine après semaine. Il n'a pas besoin de renouveler son sacrifice. Il l'a établi, il s'est sacrifié, il s'est offert une seule fois et une fois pour toutes. Alors, il est pour ça. C'est extraordinaire. Bon, d'accord, il reviendra une deuxième fois à travers les portes de justice. Et quand il viendra une deuxième fois, ce sera pour venir nous sauver, pour sauver ceux qui l'attendent. Épître aux Hébreux, et vous savez, c'est pareil pour la vie. Épître aux Hébreux, ici, nous avons aujourd'hui dit une parole qu'il faut connaître par cœur. Qu'il faut connaître, oui, bien sûr. Il a offert son sacrifice, il l'a vu une première fois, et c'est une fois pour toutes. Parce que l'homme ne vit qu'une seule fois. Et puis il meurt une seule fois. Et après, il y a un seul jugement. Nous ne sommes créés qu'une seule fois. Nous n'avons qu'une seule vie sur la terre. Et nous mourrons une seule fois. Et tout de suite après, c'est le jugement. On ne recommence pas à vivre, non pas à penser une seule fois que nous avons à vivre une seconde vie, parce que notre première vie antérieure n'a pas été jusqu'à l'accomplissement de sa perfection. Voilà, donc on va. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de création. C'est terrible, ça. C'est terrible, cette espèce de camouflage du fait que Dieu est un. Il y a un seul sacrifice, il y a une seule vie, il y a une seule mort, il y a un seul jugement. Le fait de dire maintenant, il n'y a une seule incarnation de Dieu. Dieu ne s'incarne pas une seconde fois parce qu'il y a beaucoup d'univers, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'univers. Alors il faut bien qu'il s'incarne dans notre univers, notre galaxie. Et dans les autres, il y a bien des civilisations humaines quand même. Donc on doit. Non, Dieu, une seule fois, Adonai Echad. Une seule. Dieu nous crée une seule fois, nous vivons une seule fois, nous mourons une seule fois. Mais alors vous dites, mais pourquoi alors? Mais pourquoi alors? Pourquoi est-ce que le sacrifice du Christ se renouvelle comme ça? Sur l'autel, la messe, puisque c'est une fois pour toutes, et qu'on n'a pas besoin de renouveler le sacrifice, sur une fois, une multitude de fois. Ben oui, Jésus est venu une seule fois. C'est lui qui est venu dans le monde. Et il s'est offert une seule fois en nous rachetant très cher pour que notre corps soit un temple, soit un corps spirituel. Soit un corps immaculé, soit un corps ajusté doublement, à sa nature divine et à sa nature humaine. Mais en mourant une seule fois, il est entré, comme l'on vient de lire dans l'épître aux Éphésiens, il est entré au-delà du voile. Et il a rendu son sacrifice et son oblation éternelle. Et en rentrant dans le véritable sanctuaire, comme prêtre éternel, son sacrifice est aussi unique, substantiellement, et éternel que Dieu est unique et éternel. De sorte que il peut être réactualisé. Il n'est pas sacrifié une deuxième fois sur l'autel. Il n'est pas sacrifié une deuxième fois sur l'autel de la messe. Une troisième fois, une quatrième fois, une multitude de fois. Non, c'est pas. Il n'est pas. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Mais la perfection, l'accomplissement, la plénitude reçue de son sacrifice unique ouvre les portes du ciel, ouvre les portes de la justice, ouvre les portes de la double gloire de l'amour du Cantique des Cantiques pour rendre actuel à chaque fois, à chaque messe, l'unique sacrifice du Christ. Il n'y a pas, quand on est, comme disaient nos pères, quand on assiste à la messe, quand on communie à la messe, quand on rentre dans la messe, quand on pénètre dans la fournaise ardente de la messe, on se trouve devant la présence actuelle, à l'état parfait, c'est l'acte pur. Sacrifice de Jésus, du sacrifice du Verbe incarné, du Christ, de l'épouser de l'époux dans cette double. Nous sommes en face de l'unique sacrifice du Christ, on se trouve en face du Golgotha. Hein. C'est la présence réelle, substantielle, actuelle, et à l'état absolument accompli, parfait, et en pleine étude reçue de Jésus. Soulevé sur la croix, étonnant et offrant sa vie, parce qu'il faut que le monde entier, qui scrute les profondeurs de Dieu, sache qu'il aime le Père. Il offre sa vie. Et nous n'avons pas, à chaque messe, nous n'avons pas un nouveau sacrifice, nous avons l'unique sacrifice de la croix. Comme disait mon père, nos pères, non pas moins, que ce qu'avaient Jésus, Marie et Joseph, là, ici, à l'instant du Golgotha. Non, pas moins. Nous avons même peut-être plus. Mais c'est réellement le sacrifice de Jésus crucifié. Et nous proclamons cette nouvelle. Nous proclamons par les lèvres. La proclamation des lèvres donne le salut, mais parce que nous attendons Jésus une deuxième fois. Ça, oui. Et à tous ceux qui l'attendent, la foi du cœur obtient la justice. La justification. La justification du monde entier. Et la proclamation des lèvres atteint le monde entier, à chaque fois. Parce qu'à chaque fois qu'il y a la proclamation de la bonne nouvelle de l'Évangile, à chaque fois les cieux s'ouvrent, les portes de la justice s'ouvrent, la Sainte Famille glorifiée, dans l'anastase, ouvre toutes les portes de son arche d'alliance. Le voile se déchire une nouvelle fois, voilà le sacrifice de la messe réactuée. Et vient. Et la bonne nouvelle est annoncée. Elle est annoncée d'une manière divine. C'est pas une annonce faite par des hommes, c'est l'annonce de Dieu qui déchire son propre voile et puis qui vient envelopper, pénétrer, actualiser sa visitation d'amour et de lumière, donner au fond du cœur de chacun, de tous les hommes sans exception, un basset d'amour invisible. Et préparer la création tout entière à sa deuxième venue. Bien sûr que la messe est un sacrifice d'amour, c'est l'unique sacrifice d'amour. Mais ce n'est pas un renouvellement, ce n'est pas Jésus qui revient pour être sacrifié sur l'autel. Hein, cette vision-là, attention, fais attention, ce n'est pas du tout ça. Hein. C'est la divine proclamation de la Bonne Nouvelle, les cieux qui s'ouvrent, la Sainte Famille glorieuse qui ouvre ses entrailles d'amour, dans l'arche d'alliance du ciel qui s'en déchire, puisque tous les anges glorieux, dans la lumière de leur vision béatifique, s'en déchirent dans les sommets de leur vision face à face de Dieu, tous s'en déchirent, et il y a une transactuation. Et la transactuation, qu'est-ce que vous voulez? C'est plus que la transsubstantiation. C'est pour ça que nous sommes en face de Jésus, dans son incarnation, sur la croix au Golgotha, non pas moins que cela, c'est vraiment lui, c'est vraiment cela qu'il a devant nous. Mais nous avons plus parce qu'il y a une transactuation. Il y a quelque chose de spontané. La transactuation est une propriété du jaillissement, de la surabondance dans les profondeurs de Dieu, de la spontanéité à l'état pur. C'est pour ça que c'est une transactuation. Le sacrifice de Jésus se rend présent actuellement. Et c'est un petit peu comme Élie le prophète qui va chez la veuve. Il va chez la veuve. La veuve dit, mais la veuve, ça représente l'Église, hein, ça représente Marie, ça représente la Jérusalem dernière. Elle donne, je ramasse un bout de bois, je ramasse du bois. Je ramasse un peu de... Et puis il me reste juste une... Voilà. Un petit morceau de farine dans mon pot. Je fais du pain. Nous mangerons et nous mourrons. C'est joli ça. Pour manifester ce que c'est que la messe. Et lui le prophète dit, mais non, tu prends le pain, le bois, toi tu prends un bout de bois, la croix. Tu prends le reste de la farine au fond de ta jarre, la dernière goutte d'huile qu'il y a dans ton vase. D'accord, tout ça c'est bien, là, sur la croix. Tu fais du pain, et puis tu me le donnes à moi. Tu me le donnes à moi. Et tu verras que la jarre de farine ne s'épuisera jamais, que le vase d'huile se rabondera toujours, tant qu'il y aura la famine sur la terre, et la jarre de farine ne s'épuisera pas, et le vase d'huile ne s'est pas tari. C'est très très beau. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait proclamé dans la bouche d'Élie. Ben c'est de la même manière, vous voyez, que l'Eucharistie ne s'épuise pas, le sacrifice de Jésus sur la croix, le sacrifice de Jésus dans la croix glorieuse, le sacrifice de Jésus, dans l'anastase de la résurrection, déchirant toujours son voile intérieur, dans le baiser d'amour pour scruter et entrer la divine dans le sanctuaire de la paternité créatrice de Dieu et concevante de sa propre divinité. Ne s'épuise pas. Dans l'Eucharistie. Va, c'est la jarre, cette jarre qui un jour va reprendre six fois la création tout entière de l'au-delà de la résurrection pour contenir toutes les eaux de la grâce et les transformer en vin, en os de Cana. Ce vase-là, c'est pas dans cette jarre des noces de Cana. Symbolise tout ça, bien sûr. Et le vase, c'est autre chose. Le vase d'huile. Le vase d'huile. C'est l'onction. Quand l'onction du Christ sur la croix pénètre et scrute toutes les profondeurs du Père pour s'y introduire debout comme agneau, à ce moment-là, il y a. Et que toute la farine transformée en pain avec, eh bien, le vase d'huile, ben, ça représente la transformation glorieuse du pain, et puis aussi de la farine, et puis aussi de l'eau, de la grâce, et puis aussi du sang du Christ glorifié, qui opère une mutation. Une émanation, une actuation, une participation directe dans l'un des portes de la justice qui s'ouvre en lui, de la procession du Saint-Esprit. C'est le vase d'élection. Et notre corps est ce vase d'élection. Alors vous ne le savez pas. Que votre corps est un vase d'élection du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit. Et au cœur de tout ça, il y a quelque chose que nous tenons entre nos mains. Et que nous ne lâcherons plus. C'est ce que dit le cantique des cantiques. Voilà la foi de notre cœur qui nous ajuste à la réelle manifestation jusqu'à ce que le Christ vienne une deuxième fois. Tenui nec dimittam. Je te tiens, je te lâcherai plus. C'est un passage du cantique des cantiques jusqu'à. Tant que je ne t'ai pas fait pénétrer, tant que nous ne savons pas pénétrer ensemble dans la chambre de ma mère, dans le lit de celle qui m'a conçu, la conception, l'immaculée conception. Et ma conception est dans les profondeurs intérieures de l'immaculée conception. Qui assume la conception de celui qui a ouvert les portes de la justice dans son cœur et dans sa proclamation dans la vie intérieure du Dieu unique, en sa paternité créatrice de tout ce qui existe. Alors, c'est le curé d'Ars, savait quand il tenait Jésus hostie dans ses mains, la coupe, il tenait fort. Entre ses mains quand il disait la messe. Il tenait fort. Et puis il disait Tenui nec dimittam, je te tiens et je te lâcherai plus. Et puis, alors l'enfant de cœur qui était en dessous, au bout de 3, 4, 5, 10 minutes, il était. Je te tiens, je te sens plus. Tirer sur ça. Sur ça. Jésus, il faut continue la messe. Alors, bon, alors, tes nuits nectimitam, c'est sponsal, on tient le. Et bien, alors, le cantique des cantiques, le même cantique des cantiques, je ne te lâcherai plus, que je n'ai fait tout pénétrer dans la chambre de la conception. Dans la chambre de ma mère, dans le lit de celle qui m'a conçu. C'est dans la conception de l'épousée, éternellement, dans la paternité agréée de Dieu, le Père, que la nature divine unique de Dieu opère la transactuation sur nature responsable de la bonne nouvelle qui doit sauver tous les hommes au retour du Christ. Quand il va revenir pour sauver l'humanité. Ce sera, il vient pour nous sauver. Il vient pour nous sauver. Il vient et tous les anges qui sont à l'intérieur, si je puis dire, de l'émanation du vase d'huile parfait qu'on peut y assumer à l'intérieur de la proclamation intérieure à l'intérieur de Dieu, du Saint-Esprit, ce vase d'huile qui ne s'épuise jamais, jusqu'à sa débordance dans le sixième sceau de l'Apocalypse. Et cette jarre de farine qui, c'est beau, ça va, mon Dieu, qui reprend toute la création dans l'eau de la grâce et l'ivresse de chacune des personnes de la Très Sainte Trinité, lorsque le Christ célèbre la messe de la fin des temps, dans le royaume, mais ce royaume-là, il est annoncé, nous l'annonçons. Et à chaque fois, il enveloppe, hein, il pénètre l'âme, le cœur, et aussi les lèvres de tous les êtres de vie. Dans l'univers, ceux qui ont été, ceux qui sont, ceux qui existent, ceux qui vivront aussi, pendant, avant et au-dessus et en dessous de nous, dans les délices de chacune des trois personnes de la Très Sainte Trinité qui s'y opèrent, qui s'y réalisent jusqu'à la fin du monde,